Bien, bonjour, merci d'être venu. Donc voici Vincent Poussard.
Voici Joël Raffier, on va faire comme ça.
Donc le sujet du livre.
Et l'écrivain, voilà.
Voilà. Alors vas-y Vincent.
Non, si je commence, je vais parler deux heures, donc c'est pas la peine. Non, ce qu'on va faire, voilà, juste pour vous dire qu'on a pris nous beaucoup de plaisir à faire ce livre. Je disais l'autre jour, à la première soirée, que c'était un petit peu un genre de révélation amniotique, parce que c'est vrai que ça a pris à peu près 9 mois, mais en même temps, on était content qu'il sorte, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de rencontres, à peu près une bonne vingtaine de rencontres, je veux dire, hors celle de amicale, parce qu'il y avait quand même des rencontres professionnelles où on faisait des échanges, donc soit par le dictaphone, soit par le petit carnet de Joël, beaucoup de prises de notes. Il a en quelque part un petit peu, il m'a découvert au fur et à mesure. Je me suis livré à fond, il a su le remarquer, c'était pas toujours facile pour lui. Mais bon, il y a beaucoup de relectures aussi. Moi, j'attends de le relire. Là. Maintenant que je l'ai en main, je ne l'ai même pas touché du coup, parce que je veux vraiment le relire. Mais je l'ai déjà lu 4 fois et comme c'est un peu ma vie et que je la connais, je vais attendre de devenir soit, pas Alzheimer, mais peut-être amnésique, pour pouvoir le relire. Non, je plaisante, je vais le relire, mais je vais le relire tranquillement. Bon, j'ai déjà des retours, parce que ça fait quoi, 15 jours, à quelque chose près, qu'il est sorti officiellement. Donc, j'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'il avait lu. Il faut enlever le cache pour prendre des photos, c'est plus sympa. Et j'ai des gens qui m'ont dit qu'il avait lu, qu'il avait trouvé sympa. Alors, apparemment, même des étudiants qui l'ont lu en 2 nuits. Apparemment, ça se lit bien la nuit, je ne sais pas pourquoi. Et des maris jaloux qui m'ont appelé en me disant « Ma femme s'endort avec le bouquin et elle ne pense plus qu'à ça. » Donc comme ça, se lit en 2 nuits, donc c'est plutôt sympathique. Non, il se lit très bien. Il est apparemment très, très agréable. Les petits trucs et astuces, on n'a pas voulu faire un livre hybride avec une partie roman sur ma vie et une partie recette derrière. Ce n'était pas le but. Donc on a un petit peu mélangé tout ça de façon agréable. On a eu la chance aussi d'avoir notamment Xavier Rosan, qui est le directeur des éditions Le Festin, et toute son équipe, qui nous ont foutu la paix, quoi, pour ainsi dire. Ils nous ont guidés, ils nous ont cadrés sur les grandes lignes, mais on a fait à peu près ce qu'on voulait. Et pour ne rien cacher, moi je suis, à titre perso, extrêmement fier de ce livre. D'abord, une, parce qu'il parle de moi, donc comme je suis un grand mégalo, ça fait plaisir. Et de deux, surtout, je trouve qu'il est très très bien écrit, il est sympa, il est marrant, il est caustique, il est un peu décapant. Et l'autre jour, on m'a dit avec beaucoup de gentillesse, ce livre, il n'y a qu'au con qui ne plaira pas. Et j'ai trouvé ça une belle définition, parce que comme ça, je suis tranquille, parce qu'au moins, ces gens-là, je ne les verrai pas, donc je suis à l'aise. On a fait une très belle soirée d'ouverture où il est passé entre 300 et 350 personnes, boire un petit verre, etc. C'était plutôt sympa, et le livre, pour l'instant, part dans cet esprit et dans ce style. Voilà, mon cher Joël, ce que j'ai à dire sur ça. Mais c'est sympa de faire une biographie à 43 ans qui ne sente pas la naphtaline ni la chrysanthème, je vous rassure. Ce qu'on m'a dit, c'est plutôt sympa, ça se lit bien, et puis c'est dynamique et c'est rythmé. Donc merci Joël, j'en profite pour le dire en place publique, parce que a priori, c'est bien écrit. Voilà.
Ben, merci à toi, oui, c'est gentil, c'est très gentil même. Moi, je veux dire que c'est la première fois que je travaille comme ça. C'est pas la première fois que je travaille avec des entretiens, parce que je suis journaliste, donc j'ai un peu l'habitude des interlocuteurs. Mais je veux dire que ça a été assez surprenant, mais à la fois beaucoup plus facile que prévu pour moi, parce que j'ai eu affaire à quelqu'un qui est pas taiseux, enfin pas beaucoup. Qui est peu taiseux, donc qui s'exprime énormément. Donc alors c'est un revers de la médaille. Je me suis retrouvé avec des heures et des heures d'interviews qu'il a fallu réécouter et retranscrire. Et alors ça c'est un peu le côté disons laborieux du travail. Mais après chaque fois j'étais surpris par la qualité de ce qui était dit. Il y avait toujours de la matière, il y avait toujours quelque chose, et souvent même c'était littéraire, même à l'oral il y avait des choses qui étaient littéraires. Et d'ailleurs on en parle dans le livre, enfin j'en parle, Vincent a eu quelques petits problèmes avec des profs de français à une certaine époque, enfin au début de ta carrière dans l'éducation nationale, pas en tant que professeur mais en tant qu'élève. Une longue carrière d'ailleurs dans l'éducation nationale, parce que mine de rien il a fait un parcours assez long. Et il avait des problèmes avec les professeurs de français. Et je me suis souvent dit que c'était qu'il avait, il a la fibre littéraire, voilà. Et finalement, c'est assez rare, je trouve, chez les gens qui ont par ailleurs une profession. Mais je pense qu'il le savait pas. Et puis ça s'est avéré aussi lorsque il a fait les relectures. Je trouvais que je faisais relire à les textes à Magali Garcia, qui est là, ma compagne, et qui est aussi une très très bonne lectrice. Et ensuite, ça partait dans les. Enfin, c'est passé par les mains de Vincent, et là, je me suis aperçu que j'avais affaire à un très bon lecteur. Ce qui, quand même, est toujours très agréable, parce que si j'avais eu affaire à un lecteur, disons, moins précis ou plus vaniteux, finalement, parce que Vincent, il est mégalo, mais il n'est pas vaniteux. C'est pas pareil. J'aurais plus galéré. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un, et je crois que lui aussi, je sais pas, mais il est prof. Après tout, c'est normal qu'il ait une base littéraire. Mais je crois que lui aussi, après, moi, je lui ai passé des bouquins, un bouquin de Flaubert. Je crois que lui aussi a découvert une part de lui-même à cet égard, je pense. Donc, c'était très agréable à faire. Et je sais que généralement, tout le monde dit ça un peu. Hein. Mais non, moi, je le pense profondément. Voilà. C'était intéressant. Et j'espère que le lecteur ne s'ennuie pas. Voilà. Pareil, sincèrement. Vincent ?
Moi, j'ai rien à rajouter, hein, si ce n'est que j'ai eu la chance sur le Salon d'agriculture de Paris. Bon, c'est vrai que je dis comme ça, c'est fait. Mais je m'amuse avec la promo de ce bouquin terriblement, parce que je suis convaincu qu'il est bien, donc c'est d'autant plus facile. Pour rassurer tout le monde, je l'ai offert à Nicolas Sarkozy, François Hollande et Dominique de Villepin. Donc on aura un résumé, une synthèse d'ici quelques semaines. M'ont promis qu'ils le liraient. J'ai spécifié au chef de l'État que ce n'était pas un programme présidentiel, c'était plus un divertissement, donc ça l'a amusé. Je ne suis pas certain qu'il l'ait encore dans les mains aujourd'hui. Mais ceci étant, non, c'était amusant de faire la com avec ça, de rigoler. Et c'est vrai qu'après, moi, j'entretiens une mégalomanie. On m'a dit l'autre jour, un vrai mégalo, il ne sait pas qu'il est mégalo. Donc c'est plutôt rassurant, moi je le sais. C'est surtout que c'est pas ça, c'est que je m'en amuse, je suis un provocateur, je décape, je réveille les gens qui dorment, je m'amuse beaucoup et j'assume pleinement tout ça. D'ailleurs, les gens qui me connaissent bien et qui ont lu le livre me disent ben, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est toi, pleinement toi. Bon, ça permet d'assainir aussi en ce qui me concerne. Ça a été une petite partie, un petit moment qui était un peu à la limite de la psychothérapie, mais bon, ben, on ne fait pas une bio de son vivant sans se faire mal à certains moments. Mais au moins, l'avantage aujourd'hui, c'est que ceux qui ne me connaissent pas me découvrent, ceux qui me connaissent confirment, et puis ceux qui avaient des doutes, eh bien, au moins, ils sont au courant. Comme ça, c'est très, très agréable, parce que il n'y a plus de doute à ce niveau-là. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a... C'était difficile de placer ce livre quelque part. Quand je dis de placer ce livre quelque part, parce que c'est en aucun cas un livre de cuisine, c'est en aucun cas un pur roman, puisque c'est une bio-thématique qui est vraiment axée sur ma vie, donc... Ben, on est dans un livre plutôt vérité. Donc, il y a de l'amusement pour celui qui aime la cuisine. Il y a quand même un bon petit paquet de pages pour se divertir et puis apprendre des trucs et astuces. Mais il y a surtout aussi pour... j'aimerais bien aussi que ce livre, il soit... Pas mal de jeunes qui m'ont dit qu'ils l'avaient acheté. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si ça peut déclencher ou motiver ou se dire que jamais rien n'est perdu pour les études, c'est plutôt pas mal. Je regardais en arrivant, ça m'amusait, parce que j'ai dit, heureusement qu'on n'a pas fait un bouquin sur la médecine, parce que vu la tronche des devantures en ce moment, c'était pas facile de l'exposer, donc c'est vrai que c'est mieux de l'avoir fait partie cuisine. Donc ça, c'est déjà une bonne idée, de l'avoir mis là-bas, parce que c'est vrai que les... Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Non, mais voilà, c'est tout, c'est que de la rigolade, c'est que du plaisir, c'est que du partage. Les gens qu'on a rencontrés, mais des gens adorables en plus. Après, les détails, c'est toujours rigolo, c'est... tu vois, par exemple, pour le gigot, moi, je ne fais pas comme ça. Alors, ça, c'est énorme. Ça veut dire que sur un livre de 304 pages, avoir un détail comme ça, c'est plutôt magique. Ou alors, tu vas pas de main morte là-dessus ou là-dessus. Bah oui, mais ce n'était pas le jeu. Ce n'était pas de faire justement un programme politique. C'était de faire un vrai livre. Donc, c'est différent, quoi. Motivation de départ pour le livre. Alors déjà, elle n'est pas personnelle parce qu'elle vient plutôt de l'éditeur qui m'avait rencontré sur l'escale du livre il y a un ou deux ans d'ailleurs. Et suite à ça, elle avait dû trouver apparemment mon style un peu marrant, un peu décapant, un petit peu approprié à ce genre de situation, ce qu'on appelle un petit peu de showman. Donc ça lui avait trotté dans la tête. Et puis suite à ça, Joël Raffier avait fait donc un article dans le magazine Spirit, mais avant ça, dans le Sud-Ouest,
ouais, là,
où il avait relaté un petit peu les faits. Puis moi, j'avais trouvé déjà que c'était bien écrit. C'est-à-dire que quand moi, j'aime pas forcément lire ce qu'on écrit sur moi. Ça fait un peu, ça m'excite un peu, mais à un moment, bon, ça fait là, c'est l'inverse justement. Moi, bon, je me dis après, on s'habitue, et puis on n'est pas à la chasse aux articles. Donc là, c'était plutôt bien écrit. Je me suis dit, tiens, ce mec, il a une bonne plume, il a tout compris, etc. Et puis après, Xavier Rozan a fait la suite. Il nous a réunis. Il a dit, moi, je veux faire un livre. Au départ, pas grand monde croyait à l'aventure, parce qu'on disait, bon, un livre sur moi, c'est vrai que ça peut intéresser uniquement mes copains. Et puis on est parti dans le petit délire, on s'est retrouvés. Et puis je trouve, alors là c'est complètement avec une immense fierté, mais je suis content qu'il existe ce livre parce qu'il méritait d'être fait quand je vois le résultat, parce que je suis convaincu et persuadé que le parcours, en même temps, alors je ne vais pas la faire causette avec le fils d'ouvrier qui a réussi à faire quelque chose, ce n'est pas ça le but du jeu, mais je suis convaincu que ça peut réveiller pas mal de jeunes. Ça peut, il y a un petit côté nostalgique aussi chez les plus âgés, où ils peuvent se dire, bah tiens, c'est marrant, comme quoi il y a des gens qui se retrouvent. Ce que je suis content par contre, c'est que du jeune de allez, on va dire de 17, 18, 19 jusqu'à 25 ans, jusqu'aux personnes plus âgées, chacun retrouve un petit moment de soit d'enfance, soit de nostalgie, soit de un petit peu futuriste avec des idées un petit peu justement sur ce qu'on peut faire dans ce monde un petit peu où tout est axé sur l'économie, la réussite, le pouvoir d'achat, l'objectif premier de absolument dans la vie gagner sa vie et réussir. D'ailleurs, on le lit dans le livre, ça veut dire quoi? Moi, je reste convaincu aujourd'hui que réussir, c'est à un moment se dire dans la vie. Je suis plus souvent heureux que malheureux, ça c'est déjà pas mal. Et puis voilà un petit peu la motivation. Réellement, c'est un concours de circonstances qui a fait. La motivation, elle est venue après parce qu'on a vu qu'il y avait de la matière. Et puis je vous cache pas que Joël écrivait bien, captait bien. Il n'aurait pas capté, on aurait arrêté. Hein. Je veux dire, moi je voulais pas me lancer dans un truc à moitié quoi. Soit c'était à peu près comme je le sens. Soit ça n'existait pas et on ne s'est jamais accroché ni avec l'éditeur, ni avec l'équipe, ni avec des petits machins où on m'a dit « Vincent, tu vois là, je ne le sens pas » ou « ce serait peut-être mieux ça ». Mais ça s'est fait vraiment en équipe, avec tout le monde, d'une belle façon. D'ailleurs, je resalue le travail de toute l'équipe de Maider, d'Amélie, etc. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, que ce soit en cuisine ou pour faire un bouquin, de bosser avec moi, parce que je suis un teigneux, je suis un têtu, je suis pugnace, je suis tenace, je ne suis pas marrant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de défauts que j'assume pleinement, mais c'est vrai que je regrette rien, j'ai rien laissé passer, même encore aujourd'hui, je sais où sont les livres en vente, je sais ce qui se vend, je sais comment ça se passe, je surveille des relais H à Montparnasse en passant chez Mola, les vitrines, etc. Ça m'amuse, c'est juste qu'à un moment, il faut frapper tant que le fer est chaud, puis j'ai envie que ce livre, quand il sera dans les... Quand il sera dans les tiroirs ou dans les oubliettes, ben on passera à autre chose. Mais pour l'instant, ben j'ai envie de soutenir ce livre parce que le travail qui a été fait, alors c'est pas du tout pour gagner ma vie, hein, parce que alors là, j'en suis loin. D'ailleurs, j'en ai rien à faire de ça. C'est juste parce que j'aimerais qu'un maximum de gens. Et ce qui est terrible, c'est que ce matin, je rencontre mon poissonnier qui est un mec adorable. Il me dit, je t'ai vu avec Mitterrand, machin et tout. Oh, mais de toute façon, moi, je lis pas. Bon, ben, je dis, c'est pas grave, il y a quelques images dedans. Et il me dit, oh, mais de toute façon, j'ai jamais lu un livre de ma vie, puis de toute façon, j'en ai rien à foutre, mais c'est vachement bien. Hein. Puis ce qui me fait plaisir, c'est que tu prennes mon poisson chez moi. Voilà, bon, donc on avait une super synthèse. Il faut admettre qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Il faut admettre aussi qu'il y a des gens qui vont lire presque pour me faire plaisir. Bon, ben ça c'est normal. Et puis il faut savoir que quand on va dans les boutiques, qu'elles soient partout, que ce soit Mola, qui est la première librairie indépendante de France, ou les autres, ben, il y a des foisons et des foisons et des foisons de livres. Je ne sais pas combien il en sort par jour, c'est une folie. Alors en plus, en période électorale, avec tous les politiques qui en sortent 4 chacun pour écrire la même chose avec des couvertures différentes, bah c'est vrai que c'est mélangé. Donc je trouve que c'est une belle performance déjà que ça se vende. Voilà.
Alors moi, la motivation, je réponds aussi à votre question. C'est parce que j'étais très motivé. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, Vincent, mais d'ailleurs, c'est dans le livre, donc tu pourrais t'en souvenir. Je t'avais dit, je l'avais écouté en fait, hein, c'était une interview assez conventionnelle, je l'avais écouté dire finalement comment on fait dans ce cas un peu le curriculum vitae, et je lui avais dit, il y a de quoi écrire un bouquin avec ton histoire. Puis bon, ça l'avait fait sourire, puis vous ne l'avez pas spécialement accroché. Et moi, en fait, j'avais repensé. Et en fait, une de mes motivations, c'était le côté de l'éducation nationale, le côté professeur, disons, non conventionnel. Ça, alors, j'ai pu le vérifier. Ça me semblait très important. Parce que finalement, la transmission, ce qu'on passe, les passages de relais, les passages de savoir, etc., je trouve que c'est un des problèmes intéressants de toutes les époques, d'ailleurs, mais de notre époque singulièrement. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de montrer un type qui avait une manière peu conventionnelle et qui, d'ailleurs, par moments, a du mal à se faire accepter au sein de son administration. L'autre chose, c'était que quand on écrit, il vaut mieux écrire sur des choses qu'on connaît un peu. Bon, c'est pas une règle, mais bon, c'est ce que je pense sur en général. Et ça, c'est. Il se trouve que moi, j'étais à l'école hôtelière, et voilà. J'étais donc élève de cette école où Vincent est professeur. Donc, je pouvais comprendre de l'intérieur quelques petits problèmes de l'école ou de l'enseignement. Et ensuite, il se trouve que j'ai fait mon service militaire au ministère de la Défense. J'étais serveur de Charles Hernu, je ne sais pas si vous en souvenez. Il a été accusé d'espionnage, mais bon, j'y suis pour rien. D'ailleurs, je ne sais pas où en sont ces histoires, je crois que c'était... Enfin, je ne sais pas. Donc, j'ai passé un an donc, rue Saint-Dominique au ministère de la Défense. Et j'ai vu un peu comment ça se passait disons, sous les ordres de la République, comme on dit, de manière un peu cliché. Et donc, il suffisait de forcer un peu pour arriver à l'Élysée, où j'allais d'ailleurs souvent, on allait chercher des œufs à l'Élysée le samedi, quand on trouvait pas, quand les fournisseurs étaient fermés, on prenait la voiture, on traversait le pont Alexandre III, et on allait chercher les œufs, du lait, des petites choses à l'Élysée. Donc j'avais vu un peu cette cuisine de l'Élysée, cet Élysée, tout ça. Et bon, pour nous, l'Élysée, c'était quand même... C'était le ton au-dessus, quoi. On était un peu impressionnés. On restait quand même pour M. Hernu, qui était bien gentil, mais bon, c'était quand même pas François Mitterrand. Et donc, j'avais cette idée du... Enfin, voilà. J'avais une approche... Et puis, l'enfance aussi à la campagne, parce que moi, je suis de la même origine sociale, peu ou prou. Mes parents n'étaient pas ouvriers, mais j'ai eu à peu près la même enfance. Dans une région quand même plus favorisée que les Deux-Sèvres. <C'est... rire> Mais donc, je me sentais un peu supérieur par rapport à ça. Non, mais voilà. Il y avait une vraie... il me semblait que j'étais à même de savoir de quoi, sur quoi j'allais écrire. Et puis après, je trouvais Vincent assez franc. C'est assez drôle aussi parce que je crois que j'aurais pas pu faire un livre avec quelqu'un d'ennuyeux parce que des fois il y a des moments, c'est vrai, des fois on se voyait, bon, on se répétait un peu, mais l'humour c'est
indispensable.
On s'est bien marré quand même, hein. Bon, pas toujours, mais il y a eu des moments, enfin moi je me suis marré, voilà. Vincent moins, je crois. Non, parce que c'est vrai, des fois, de raconter sa vie comme ça, parce qu'il va pas, il fait pas les choses à moitié. C'était des fois, j'avais l'impression de...
D'être psychique.
Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais chez lui, c'était moi qui étais sur le canapé. Des fois, lui, il marchait et tout. Et puis, c'est lui qui me racontait les trucs. C'était assez bizarre, ça. En fait, j'avais l'impression que le truc était un peu inversé. C'était un sofa rouge.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'était assez rigolo, ça me faisait rire. Voilà. Donc, une motivation importante, finalement. Puis moi, j'avais hâte d'écrire un livre aussi, parce que le journalisme, c'est bien, mais ce sont des petites distances. C'est comme en natation, ce serait comme des bassins de piscine, vous voyez. Et un livre, c'est un peu traverser la Manche, au moment où on se trouve au milieu du...
L'Atlantique, vous voulez dire.
Non, la Manche. On se trouve un peu au milieu du gué, on se dit, là, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais voilà. Donc, il y a eu quelque chose, voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de me lancer là-dedans. Et en fait, à propos de Vincent, de plus en plus, je pense à un hélicoptère, parce que... Souvent, il y a des gens qui le rencontrent pour la première fois, ils se demandent, mais qui c'est ce mec, quoi. Là encore, je suis venu au salon de l'agriculture et il y a énormément de gens qui m'ont dit, mais qui c'est ce type, quoi? J'ai dit, mais bah, c'est le sujet de mon livre. Et parce que bon, c'est vrai que quand même, des fois, il a une manière d'aborder les choses. Mais en fait, c'est une espèce, je pense, de timidité. Mais enfin, moi, je ne suis pas là pour faire son portrait psychologique. Mais je pense à un hélicoptère, parce qu'un hélicoptère, lorsqu'il décolle, lorsque les pales démarrent, ça fait bouger les feuilles. Mais bon, le but de l'hélicoptère, ce n'est pas faire bouger les feuilles, c'est de décoller. Et lui, il est pareil. S'il fait comme ça bouger les choses, s'il peut faire... Il peut faire trembler un peu peut-être les gens qui sont un peu timides, ou il peut être gênant, encombrant, ou comme ça. Mais ce n'est pas du tout par... Il n'y a pas d'intention maligne dedans. C'est juste, il est comme ça, voilà. Donc je trouve que c'est un personnage assez moderne, finalement. Voilà, je pense que c'est un type assez moderne, un type voilà, de notre époque. Voilà, et qui devait avoir un portrait... disons, voilà, essayer de donner un portrait dans son époque, avec un peu d'arrière-plan, avec un peu de bon, recul, évidemment, ça c'est la moindre des choses, mais avec un peu de, pas de profondeur, mais d'arrière-plan, voilà. Comme un tableau, comme ce tableau-là, où on voit voilà, des petites choses derrière qui se passent, que les personnages... du premier plan, ne voit peut-être pas forcément, mais que le spectateur ou le lecteur peut voir, voilà.
En fait, maintenant, l'avantage avec ce livre aussi, je voulais le dire, c'est quand on me demande et comment c'était à l'Élysée, je leur dirais, allez chez Mola. Ça, c'est pratique. Ça fait 20 ans qu'on me demande s'il aimait la blanquette de veau, les ortolans. D'ailleurs, à Paris, on m'a même demandé, il y a un journaliste du Parisien, je vais le citer au moins le journal, qui m'a dit, est-ce que c'est vrai qu'il mangeait des perroquets? J'ai dit pardon monsieur.
C'est moi qui mange un perroquet.
J'ai dit pardon. Et oui, mais il me dit, me la faites pas. En fait, il mangeait des oiseaux protégés et j'ai entendu dire que c'était des perroquets. Alors là, je l'ai envoyé sur internet, regardez ce que c'était que les ortolans. J'ai dit par contre, vous êtes vraiment parisien. Il m'a dit oui, pourquoi? Ben, je dis parce que ça se voit. Et c'était assez cocasse. Du coup, j'ai pas eu mon article dans le Parisien. Ben, c'est pas de chance. Hein. C'est comme ça. Mais je veux dire, c'était surprenant justement par rapport à ces petites anecdotes, ces petits trucs. Bien sûr, c'était les ortolans. Mais pour répondre précisément à la question, on devient cuisinier du président, bah parce qu'on, ça c'est vraiment, c'est bien bien décrit dans le livre, c'est bien expliqué, mais c'est, d'ailleurs je disais aux gens, avant je réservais ça uniquement aux gens que j'aimais beaucoup, parce que c'est très long, ça dure 20-25 minutes, cette histoire, juste ça, et c'est vrai que si je la raconte qu'à moitié, elle n'a pas de sens. Donc je m'amusais à dire, ils sont venus sonner chez moi un jour, vers 11h, parce que le président avait faim, j'y suis allé de suite, et puis ça s'est fait, ce qui est complètement faux. Non, ça s'est fait par concours des circonstances, parce que je me suis dit que j'avais envie de devenir le cuisinier privé de François Mitterrand. Alors, au départ, ça vient d'une petite rédaction, issue d'un château en Espagne, avec la fable de La Fontaine, Perrette et le Potolet, etc. Donc j'écris que je suis devenu le cuisinier de François Mitterrand, dans une rédaction en classe de 5e. Ça, on oublie. Puis un jour, j'ai eu la vraie détermination de devenir le cuisinier de François Mitterrand, parce que je me suis dit, il n'y a aucune raison que le fils de Jacques Martin ait fait son service national à l'Élysée et que celui de Jean-Paul Poussard ne le fasse pas là-bas, quoi. Pourquoi il n'y aurait que les enfants de stars qui bénéficieraient de ce genre de privilèges? Donc j'ai vraiment bataillé, poussé, j'ai poussé des portes, comme apparemment Joël dit que c'est ma spécialité, j'ai enfoncé des portes. Et puis de fil en aiguille, non seulement je suis entré à l'Élysée en tant qu'appelé du contingent après une période de formation maritime à Hourtin, mais non seulement comme j'étais un petit peu attendu comme l'œil de Moscou, vu que j'étais un pistonné politique et que j'avais un BTS, donc je cumulais deux handicaps pour la cuisine, c'est-à-dire les études et la politique. Donc c'était pas facile. Donc je suis allé au service privé de Daniel Mitterrand, dans un premier temps, comme on disait, faire des yaourts et des salades. Et de yaourt en salade, je suis passé rapidement à faire les plats du président. Et à l'issue de mon service national, là aussi, c'est extrêmement compliqué. Je suis resté à son service 2 ans et demi de plus. Voilà un petit peu rapidement l'histoire. D'ailleurs, à ce titre, vous voyez, je n'ai pas oublié, en quittant Paris, d'aller à l'Élysée, parce que j'y vais 2-3 fois par an, faire un petit coucou quand même. Et j'ai fait quelques photos dans la cour de l'Élysée avec le bouquin, ça m'amuse, je vous les ferai passer parce qu'elles sont assez sympas. Et puis je suis allé l'offrir surtout à Bernard Vaution, qui prend sa retraite l'an prochain, qui est le chef en titre de l'Élysée, et qui, ça fait 35 ans, presque 36 ou 37 ans qu'il y est. Et puis il y a 2-3 personnes de la brigade, son second Guillaume Gomez, qui va certainement prendre la suite, qui est meilleur ouvrier de France. Et puis j'en ai laissé un pour la... pour l'équipe, voilà, tout simplement. Ça m'amusait, ça me faisait rire d'aller leur offrir de livres et de revenir un petit peu, aux sources, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de, on va dire de la genèse un petit peu de cette histoire. Mais bon, ouais, je sais pas s'il y a des choses. Si demain j'avais décidé d'aller sur Mars, ça va être plus compliqué, quoi. Voilà. Mais à partir du moment où les choses sont, on est persuadé qu'elles sont réalisables, qu'est-ce qui empêche qu'elles se réalisent? Moi, c'est un peu mon truc.
Non, mais en fait, c'est assez. Ce qui est marrant dans comment tu es en train de réaliser, je trouve, c'est que il a simplement écrit des lettres. Il a envoyé des lettres. Il a écrit à Ségolène Royal. Il a insisté. Lorsque Ségolène Royal lui a dit oui, j'ai quelque chose, mais c'est chez Michel Rocard, il a dit non. Moi, je veux l'Élysée. Donc, il a insisté, gentiment, mais il a insisté. Donc, finalement, ce n'est pas toujours le cas, mais la détermination, des fois, ça peut servir. En fait, il n'a pas été pistonné a priori. C'est juste, moi, je pense que si on écrit des lettres gentilles aux gens en demandant des choses gentiment, parfois, on peut les obtenir. Et finalement, de toute façon, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ces cuisines. Et donc, Ségolène Royal, qui connaissait bien Jean-Louis Bianco, qui était porte-parole,
secrétaire général.
Après, il a été porte-parole, je crois. Lui a dit, là, j'ai un type qui veut. Est-ce qu'il peut? Alors, c'était compliqué, mais il est arrivé. Voilà. Et puis, voilà.
Non, mais c'est que de concours de circonstances en concours de circonstances.
Oui, c'est un peu de chance.
Parce que même au niveau des anecdotes, tout n'est pas dans le bouquin. Parce que le pauvre Joël, il pourrait faire un making-of, d'ailleurs, avec tout ce qui lui reste. Il a été obligé de synthétiser, c'est vrai. Mais la première nuit où je suis arrivé à l'Élysée, j'avais dit que je dormirais à l'Élysée. Bon, du coup, j'ai dormi dehors. C'était assez sympa. Parce que j'avais décidé. Donc, je me suis retrouvé qu'à Branly.
Tu ne me l'as pas dit, ça?
Mais je ne t'ai pas dit ça parce que c'était. Oui, tu n'as pas tout eu encore.
Je ne pouvais pas vérifier à la fois qui dormait dehors la nuit.
Ça a été terrible pour moi parce que j'étais un peu à la ramasse. Et le lendemain, je suis allé directement à la lingerie. C'était incroyable. J'ai dit bonjour, voilà, je suis le nouvel appelé du contingent. Il me faudrait une paire de draps. Mais pour où? Non, mais c'est bon, je dors dans les combles. On m'a trouvé une chambre, ce qui était complètement faux. J'ai dit, il me faudrait une paire de draps. Et après que ma paire de draps, je me suis pointé au service privé. J'ai vu les maîtres d'hôtel. J'ai dit, bon, les gars, apparemment, la lingère, elle m'a dit que c'était possible de dormir ici. Donc, j'ai ma paire de draps. Elle m'a dit, mais Vincent, mais t'es complètement taré. Il n'y a personne qui dort ici. C'est notre vestiaire. Là-haut, on ne peut pas. Bon, je dis, bon, ça doit être possible. Et c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai les photos de ça. Il y a des portes de placard. Ça date de Napoléon III. Il y avait un paddock qui leur servait à faire la sieste un petit peu l'après-midi quand ils étaient crevés. Et il y avait surtout des placards où ils avaient leur tenue donc, de maître d'hôtel, leur tenue de sous-officier de marine, parce que les maîtres d'hôtel étaient sous-off de la marine nationale, donc sous-off, ce qu'on appelle second maître. Et ils ont été super sympas. Ils m'ont dit, écoute, t'as qu'à te foutre là. Il y a une douche dans le couloir. Il y a un lavabo, il y a truc. Moi, j'ai décoré. J'ai amené ma chaîne stéréo, ma guitare, mes affaires. Et je me suis installé là pendant un an. Donc, c'était pratique parce que tous les matins, j'étais réveillé au lever de drapeau avec le clairon. Et j'étais sur place, donc je dormais beaucoup plus de temps. J'avais beaucoup de mal à rentrer des gens, à faire venir des copines. Ça, c'était pas forcément facile parce que patte blanche, pièce d'identité, tout ça, c'est légèrement dissuasif. Mais sinon, donc j'ai réussi à dormir à l'Élysée pendant un an, tout simplement.
Voilà une toute nouvelle version de l'entrée de Vincent Poussard à l'Élysée.
Voilà. Non, mais ça, je te l'ai raconté, hein, Joël. Non, pas tout à fait dans le détail comme ça, mais je suis bien obligé de vous garder...
J'aurais dû amener mon enregistreur.
Non, mais je suis bien obligé de garder quelques petits trucs un peu plus frais, un peu plus croustillants. Mais après, voilà, dans un livre, on ne met pas tout non plus. Mais je trouve qu'il est, il est bien fourni quand même. Voilà, il est bien fourni et surtout réel, parce que je sais que même quand il s'écartait, mais de rien, pour dire j'ai voulu donner du style ou là, j'ai dit Joël, ok, mais là, c'est pas ça. Et de suite, après, il l'a romancé de façon, quand je dis romancé, véridique, c'est-à-dire qu'il a ajouté les petits détails, ce qu'il disait d'ailleurs croustillant. Je disais, on va dire que c'est comme dans un bouquet de fleurs, il a mis tout le gypsophile pour que ce soit aéré, pour que ce soit propre, pour que ce soit beau. Mais on est vraiment dans le... Moi, j'adore ton histoire de flipper à la gare de Sainte, parce que j'étais vraiment sur ce flipper, et je suis un fada de flipper, plus maintenant, hein, je me suis calmé, il y a 2 ans. Et en fait...
Il n'y a plus de flipper, tout ça.
Pardon ?
Il n'y en a plus de
flipper. Oui, ça n'existe plus, en fait, je suis un peu ringard, des fois. Non, si. Il y a encore, c'est vrai que dans la gare de Bordeaux, je sais pas, il n'y a pas de flipper. Hein.
Ben non.
Ah, ça, c'est un drame ce qui m'arrive là, d'un seul coup. Voilà pour ça. Plus ça va dans les magazines, plus je passe de temps. Donc je suis assez content parce que hier, j'ai appris que j'avais fait 4 ans et demi. Donc c'est bien, ils en rajoutent un petit peu. J'ai fait réellement 1 an de service national et 3 ans et demi, deux ans et demi, voilà,
de job, de
chef privé, du président de la République, co-responsable, etc. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'après, dans la presse, on voit, c'est amusant, parce que là, j'ai lu hier 4 ans et demi, donc c'est bon, impeccable. Je vais demander mes...
Presque un quinquennat.
Presque un quinquennat. C'est ce que j'ai dit à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Je lui ai dit, l'an dernier, on était à égalité, on était à 4 ans chacun. Cette année, vous venez de me battre. Donc à ce titre, est-ce que je peux vous offrir le livre? C'était assez marrant, parce que l'an dernier, il découvrait que j'avais fait 4 ans comme lui, c'est marrant.
Ce qui était marrant aussi, c'est qu'il y avait une petite guéguerre hein, à l'Élysée. Ça, c'est bon... En fait, j'ai appelé au téléphone le chef, Joël Lenormand, qui était le chef donc, de la cuisine centrale de l'Élysée, donc le grand chef, lorsque Vincent est entré. Qui n'était pas très content de le voir parce qu'il pensait que Vincent était pistonné, de gauche, et étudiant, tout ce qu'il n'était pas, en fait, Monsieur Normand. C'était vraiment quelqu'un... très légitimiste, et légitimiste au sens de droite, hein, parce que lorsque Mitterrand était élu, vraiment, lui, il se demandait ce qui allait lui arriver. Et lorsque je l'ai appelé, gentiment, il a écrit un livre, lui aussi, où il raconte ses souvenirs de l'Élysée. Alors lui, il a connu quand même de Gaulle, hein, il est entré sous De Gaulle. Hein.
Je crois même qu'il est entré sous Coty, lui.
C'est
un fossile.
Hein, il est entré en 66. Et donc, il a connu De Gaulle, Pompidou. Il est passé chef sous Mitterrand. Il a connu Giscard aussi, évidemment.
Je te coupe 15 secondes parce que c'est un détail. C'est le jardinier qui a pris sa retraite entre 92 et 93, quand j'étais à l'Élysée, qui était entré sous Coty. Voilà, c'est le détail. Ouais. Ouais. C'était d'ailleurs assez surprenant. Le mec était entré sous Coty.
Ouais, c'est des maisons. C'est une vieille maison, l'Élysée. C'était la Pompadour vivait là. C'est une grande maison depuis 1725. Et mine de rien, même si... On est passé dans un autre régime, même plusieurs autres régimes. C'est une maison qui a gardé des habitudes assez ancrées dans l'histoire. Et donc, le Normand, au téléphone, il voulait pas se souvenir de Vincent, en fait. J'ai eu l'impression qu'il avait passé tout ce temps depuis sa retraite pour essayer de l'oublier et que le jour où je l'appelais, Je lui remémorais cette période. C'était assez drôle. Il ne voulait pas m'en parler, mais vraiment pas. Il m'a dit, mais non, je ne me souviens pas de ces types-là, de ces voyous, hein, il disait, de ces voyous. Il parlait de vous en termes de... Parce qu'en fait, il y a une question de prérogative. C'est-à-dire que Mitterrand a été le premier président à prendre un cuisinier privé. Voilà. Et donc, autrefois, c'était la cuisine centrale qui tenait... le service privé. Et le service privé, pour ces cuisiniers, ce qui d'ailleurs est très compréhensible, c'était un peu ce qui leur faisait des souvenirs, hein, ce qui leur faisait, disons, la fierté professionnelle, ce qui est tout à fait normal. Et donc, de se voir prendre la place comme ça, par un appelé du contingent, hein, ça, c'est net, il trouvait ça insupportable. Il a pris ça personnellement, pensant que c'était une vexation de la part de Mitterrand. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est. Là, je n'ai pas réussi à savoir. Mais en tout cas, le Normand, lorsque je lui ai parlé de Vincent, il me dit « Mais non, je ne les connais pas, ces voyous-là, etc. » Et puis finalement, il m'a dit « Mais oui, je vois bien de qui vous parlez. Ouais, bon, mais il était ni plus beau, ni meilleur, ni plus mauvais que les autres. » Voilà. Donc, c'était quand même assez tendu. Hein. Lorsque tu allais dans la cuisine centrale, parce qu'il y avait deux cuisines, hein, une cuisine privée et une cuisine centrale, et des fois, il manquait quelques ingrédients et tu descendais chercher les 10 ingrédients, et je crois que l'accueil n'était pas toujours terrible.
Ah, d'ailleurs, quand j'ai quitté le palais, on m'a proposé d'intégrer un joli poste en plus, hein, dans la grande cuisine, parce que le problème, il était là. C'est qu'allait-on faire de moi alors que François Mitterrand était malade? On me demandait si je n'avais pas prévu quelque chose dans la vie, si je n'avais pas l'intention de m'installer, etc. Donc j'ai dit non, je n'allais certainement pas partir tout seul. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit, bah, écoutez, nous, on vous propose, il y a deux solutions. Soit vous partez, soit vous intégrez la grande cuisine. Ah ben j'ai dit oui, c'est cela, oui. C'est-à-dire que là-bas, on m'attendait avec baïonnette, boulet de canon et compagnie. J'ai dit, bon, ben là, c'est une promotion évacuation. C'est-à-dire que dans 6 mois, je leur fais plaisir. Et en fait, je craque et je m'en vais. Donc, je n'ai pas fait ça. Je me suis arrangé autrement. C'était très bien pour tout le monde parce qu'ils ne m'attendaient pas non plus. Et je me suis merveilleusement entendu une fois que j'étais parti de l'Élysée. C'est-à-dire que depuis, on en rediscutait avec Bernard Vaution, là. Mais même lui, il est super conscient, mais c'était une ambiance qui était largement entretenue à l'époque par Joël Normand, qui avait son bâton de maréchal, son mérite national, son titre de meilleur ouvrier de France, qui était à l'ancienne et qui, de toute façon, voilà, ne concevait pas qu'on puisse, surtout moi, j'étais un peu un électron libre avec un côté assez, assez, on va dire, insolent à l'époque. Donc, c'était inconcevable pour lui, quoi. C'était, voilà, c'était juste ça.
Oui, mais il a, si tu permets, il a quand même été assez... moi, je pense que ce qui est notable, c'est que c'est un milieu assez conservateur, hein, quand même, l'hôtellerie. Alors là, dans ces maisons, a fortiori. Et donc, les choses sont ce qu'elles sont. Hein, on est dans le conservatisme. Et c'est vrai que, malgré tout, il a fait preuve d'un grand professionnalisme, je crois. Même si ça ne lui faisait pas toujours plaisir. Il a quand même été, finalement, au final, il a toujours été fair-play, c'est-à-dire que c'était le boulot d'abord. C'est-à-dire que les petites luttes intestines, tu me coupes si je me trompe, mais les petites luttes intestines, qui étaient même les grandes luttes, parce que lui, il parle de luttes sévères, hein, dans son livre, ça, et il me l'a dit au téléphone aussi, et ça passait en second, le plus important étant... que le boulot soit fait et bien fait. Et ça, c'est assez remarquable. Ce n'est pas dans tous les domaines où, disons, le professionnalisme passe avant les petites vanités personnelles.
C'était évident. Ça lui a juste pourri la vie un petit peu. Mais bon, on va dire que c'était de bonne guerre. Non, mais attention, ça restait un détail, si tu veux, dans toute la fonction qui était la sienne. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours marrant de se voir. Mais c'était un petit peu le jeu de François Mitterrand aussi. C'était un peu sa technique. Que d'affaiblir un peu la grande cuisine en s'octroyant les services d'un cuisinier privé. Puis en même temps, je comprends, moi, je sais que je serai chef d'État, je n'aurais pas envie tous les soirs, rue de Bièvre ou ailleurs, d'avoir des pimpins qui changent tout le temps de tronche, qui ne connaissent pas, qui vont colporter plus ou moins des rumeurs différentes. Donc à un moment, on se met à la bonne des gens autour de soi, et puis on les conserve, et puis c'est comme ça que ça se passe. C'était juste François Mitterrand, ce n'était pas parce que Vincent Poussard était meilleur cuisinier que les autres, c'est simplement parce que ça correspondait. Et puis qu'à un moment, quand j'avais découvert ce qu'étaient tous les petits rouages de la famille et du truc, eh bien, après tout, ce n'est pas la peine de divulguer tout ça à plus de personnes. Je crois que ça s'arrête là. J'ai d'autres scoops, mais je ne peux pas les dire pour l'instant. Sur la nouvelle façon de travailler aujourd'hui, c'est assez amusant. Voilà, il y a... Oh, je peux le dire. Ouais, on peut dire le truc. Ouais. C'est marrant, il est content. Mais par exemple, actuellement, il y a 3 cuisiniers à la lanterne. Vous voyez ? C'est marrant.
La lanterne, c'est voilà. C'est à Versailles, hein, c'est le palais, donc, l'annexe, disons.
Voilà.
Mais qu'est-ce qu'ils foutent à la lanterne ?
Je ne peux pas parler. Je ne veux pas qu'on crève mes pneus de voiture. Non, mais voilà, donc ça fait partie, du travail aussi. Je veux dire, qu'un président soit de gauche, qu'il soit de droite ou autre chose, il s'octroie à un moment des privilèges qui sont plus ou moins importants. Mais je l'ai dit 1000 fois aux gens, un président de la République, moi demain je suis président de la République, tiens, comme ça direct, je ne sais pas, j'ai peut-être envie d'un kebab. Mais je vais chercher à avoir le meilleur kebab. Je ne vais pas m'acheter un kebab chez le premier bistrot qu'il y a du coin. Si j'ai envie de me taper un golf ou si j'ai envie d'aller à la pêche à la truite, je ne vais certainement pas aller à la pêche à la truite dans la Leyre au sud de Saint-Symphorien. Je vais me casser en Irlande ou en Écosse ou en Corse et je vais aller pêcher la truite sur les meilleures rivières ou les machins. C'est ce que j'explique, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas du caprice, mais quand on a la possibilité de faire les choses bien, ben je ne vois pas ce que... Voilà, c'est tout. Et je pense pour... Moi, avoir connu rue de Bièvre, Cluny, donc en Saône-et-Loire, pour avoir connu Latché maintenant, etc. Bon, après, non, mais pour dire vraiment les résidences privées du chef de l'État, ben après, oui, mais Marly-le-Roi, ce n'est pas une résidence privée, c'est une résidence d'État. Pour dire la simplicité, il n'y a pas. Aujourd'hui, un étudiant serait dans les cuisines de Latché, dans la cuisine de Cluny ou dans la cuisine de Bièvre, il serait malade, il se dirait, c'est quoi ce truc ? Il y a 2 plaques vitrocéramiques, un micro-ondes et un four où la porte vitrée est cassée, quoi. Donc, ce n'était pas très important pour ces gens-là d'avoir ce genre de choses. À côté de ça, il est évident que si on est président de la République et puis qu'on fait du ski, je ne suis pas sûr qu'on aille à la Bourboule, quoi. Voilà. Même si c'est sympa, la Bourboule. Voilà, peut-être qu'à un moment, on a envie de se faire plaisir avec des choses... Mais la qualité d'une personne, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle montre forcément, c'est par rapport à ce qu'elle vit. Et puis chacun a envie de se faire plaisir. Je sais que François Mitterrand, il adorait se balader, ce soit aussi bien à Souston, à Osgore, ou dans la forêt, ou sur la plage, ou autre chose. Bon, c'était son plaisir de marcher. Bon, il y en a d'autres, c'est d'autres plaisirs, quoi. Je veux dire, je ne sais pas le... Mais c'est vrai qu'on pénètre quand même, parce que je n'avais pas fini tout à fait de répondre à la question. J'ai un petit peu de mémoire encore. On pénètre quand même profondément l'intimité. Ce qui fait que quand le président me disait « Vincent, nourrissez-moi bien », il y avait une relation vraiment nourricière, c'est-à-dire qu'on pénètre l'intimité, on sait à tel moment ce qu'il veut manger, pourquoi, comment, en fonction de la météo, s'il a bien joué ou pas joué au golf. La sécurité m'appelait, me disait « Bon, Vincent, prépare-toi à midi, il est imbuvable ». Je dis « Ok ». Parce qu'il avait pris une pâtée au golf. Il était quand même, il avait un handicap sèche, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais bon, donc là, il fallait plutôt que je tombe pile poil dans ce qu'il avait envie de manger. Parce que si en plus d'une défaite au golf sous la pluie, à midi, je lui servais un truc qui ne lui plaisait pas, j'en prenais plein la tronche, c'est normal. Donc tout ça, c'est important. Et j'aimerais, on m'a demandé si j'aimerais y retourner. Non, certainement pas. Je les ai déjà tous prévenus, même en payant très cher. Par contre, ça m'amuserait juste de refaire tout ça avec le portable en plus. Parce que nous n'avions pas de portable. On avait Radiocom 2000 dans les voitures, on n'avait pas de portable. Juste pour voir, parce que sur un téléphone fixe, j'appelais les restaurateurs, savoir ce qu'il avait mangé le midi, ce qu'il avait mangé la veille, pour tout ça. Donc juste avec un portable, voir la grande différence de travail que ça procurerait. Voilà. C'est la modernité aujourd'hui, elle est là, c'est tout. Alors, une journée de travail, c'était on se lève, on boit un café avec mon collègue, on fumait une petite clope, après on allait au marché, on prenait la voiture, on allait rue du Faubourg-Saint-Honoré, puis à la bonne aventure, c'est-à-dire qu'on vous disait, tiens, c'est sympa, les harengs sont jolis, ou les sprats sont jolis, ou les sardines sont belles. Si c'est des fournisseurs que nous, on définissait, puis après, on ne faisait pas la foire partout, parce qu'on avait des comptes, c'était plus facile que de débourser de l'argent. Donc, on choisissait un peu ce qu'on voulait. On ne savait pas s'ils étaient 3 à manger, 4, 6, 10. En général, c'était entre 2 et 10 couverts, mais on ne savait jamais. Donc, on faisait le marché à notre guise, surtout en fonction de ce qu'on avait envie, nous, de se faire plaisir. On n'achetait pas forcément du homard bleu ou du caviar. Hein. Des fois, une belle côte de veau. Ou une belle volaille, c'était vraiment comme ça, au feeling. Et puis on rentrait au palais vers 9h30, cool. Hein. Et puis là, on attaquait tranquillement. Alors quand j'étais tout seul, j'allais un peu plus vite. Quand mon collègue était avec moi, on était plus tranquille. Bon, on avait quand même des appelés du contingent à notre service. Hein. On était quand même tout le temps 4 ou 5. Et on cuisine. Et puis des fois, on apprend, le président à midi sort. Ah bah ok, on a cuisiné pour rien. Ou Vincent, fais gaffe parce qu'il risque d'être 9. Ah, ça change, on avait cuisiné pour 5. Donc hop, hop, hop. On change un petit peu tout. Donc voilà. Et puis l'après-midi, on fait le service, on fait le travail, le maître d'hôtel. Puis après être terminé, 14h, 15h, c'est plié. On va se balader. Alors le quartier, il est très sympa. On apprend à dépenser de l'argent. Puisque moi, je me retrouvais chez Weston, chez New Holland, dans des magasins où j'avais absolument pas l'habitude d'aller. Mais c'était plutôt marrant de m'acheter des pulls où ça faisait la moitié du mois de salaire de mon père. C'était n'importe quoi. Non, mais j'ai toujours touché terre, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et puis après, on revenait au palais vers 6h. Prenez un peu la température, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il reste ce soir, alors quand il ne mangeait pas le midi, il y avait des chances qu'il mange le soir. S'il avait mangé le midi, ce n'était pas sûr qu'il reste le soir, mais ça ne voulait rien dire. Il suffisait qu'on tente un bluff, que je réserve un spectacle, ça m'est arrivé, hein, d'aller au théâtre, on avait des petits alphapages et des eurosignales, t'as coup bip 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 bip, rappeler standard Élysée, on rappelait une cabine téléphonique, parce que c'est tout comme ça. Oui, Vincent, le président mangera ce soir, il faut que vous rappeliez le secrétariat particulier. Donc voilà, c'était tout le temps, en fait, mon rôle c'était gens de maison. Et dans la convention collective des gens de maison, c'est marqué qu'on est corvéable et maniable à merci 24-24, nourri, logé, bien sûr. Donc ça faisait partie un petit peu de ce jeu, assez contraignant. Ils pouvaient être en Norvège ou à l'autre bout du monde, et puis 24 heures après, débarquer, et puis il fallait faire un petit truc sympa à Marly, à Rambouillet ou rue de Bièvre. Voilà, ça fait partie. Voilà ce que c'est qu'une journée de travail. Ça peut être, en général, on n'est pas dans l'oisiveté la plus totale, mais c'est tout le temps comme ça. Ou alors tout est imprévisible. On prend un avion, on prend un hélicoptère, on prend ma chance, on se retrouve, moi, ce souvenir où on me dit à un moment, voilà, vous prenez votre trousse de toilette, du linge pour deux jours, et on vous accompagne à Villacoublay. Alors, je panique un peu, j'appelle mes parents, je dis, bon, je leur dis quand même, parce que bon, tout est sur écoute, bien sûr, et je me retrouve au fort de Brégançon, quoi. Bon, ben là, on est à Toulon, moi, je connais pas Toulon, ben, je vais faire un marché, je fais à bouffer, puis en fait, le président, il mange pas là, quoi. Donc, c'est parfait, on rentre le lendemain, mais ça m'a permis de monter dans un puma, j'étais jamais monté dans un puma, donc c'est plutôt sympa, ce genre d'aventure. Après, sur les voyages officiels, c'est prévu. Mais voilà, voilà comment ça se passe. C'est toujours bizarre. Mais c'est ça qui est marrant.
Et quand il y a les réceptions des chefs d'État d'étrangers.
Ça, c'était pas moi. Je les voyais un petit peu. C'était en repas officiel. Mais ce qui arrivait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que souvent, en réception officielle, ils recevaient ensuite en privé. Par exemple, Helmut Kohl, Mikhail Gorbatchev, j'ai fait Margaret Thatcher... Après, il les recevait en privé à 4 avec juste un interprète. Donc là, c'était mon boulot. Par contre, toutes les réceptions officielles, j'y touchais pas. Ça fait 200, 300 couverts, c'est pas mon boulot. Il faut savoir qu'à l'Élysée, ils envoient 200, voire 250 couverts en 50 minutes. Vous voyez ce que ça donne techniquement ? tous les repas doivent être faits en 50 minutes, avec le protocole qui va avec. C'est-à-dire les préséances, les préséances et le protocole au niveau des titres, au niveau des grades, etc. Parce que c'est quelque chose. Parce qu'entre un général et un prince, entre un comte et un sous-officier, entre un chef d'État et puis un ambassadeur, etc., c'est quelque chose pour le service. C'est énorme. Sans compter la... Il n'y avait pas trop le côté halal encore à l'époque, mais je veux dire, les religions à respecter entre le cachère, entre le musulman, entre l'indien, entre le... C'est un casse-tête monstrueux. Des fois, on fait des petits blasphèmes, on ne fait pas exprès, mais bon, on ne dit rien. J'ai mis de l'alcool de poire pour le sultanat d'Oman dans un dessert. Bon, il n'a pas trop senti. Bah oui, de toute façon, c'était parti. Donc après, on ne va pas raconter sa vie, hein, on ne dit rien. Puis on cache vite la bouteille. Et puis voilà. C'est des petites anecdotes, ça, qui sont marrantes. Mais ouais, on se fait. Moi, j'étais jeune et inconscient, insouciant, donc j'avais peur de rien. Aujourd'hui, je sais que... Ce serait pareil, pardon. Ce serait pareil.
L'outillage des cuisines.
Alors, l'outillage. Ah, d'ailleurs, ça, c'est marrant, tiens. J'ai ce certificat que je ne t'ai pas donné. J'ai un certificat militaire. Vous savez, le fameux certificat qu'on remet à l'armée, bleu, blanc, rouge. Et en fait, je suis, alors là, habilité à utiliser du matériel lourd. Donc, chef privé au service de Monsieur le Président de la République, fonction matelot première classe, etc., machin, et derrière, habilité à l'utilisation du matériel lourd. C'est pas beau, ça ?
C'est-à-dire le matériel lourd ?
Normalement, ça va être des tanks, des chars, des trucs comme ça, je sais pas, mais c'était marrant, je l'ai gardé, parce que c'était grotesque. Ouais, le matériel, on était super équipés avec de la vaisselle Napoléon III. Quand je dis Napoléon III, quand on cassait une assiette, on récupérait tout dans une poche plastique, ça partait à Sèvres, ils récupéraient l'or. Ah, c'était quelque chose, des assiettes pourries. Quand je dis pourries, Napoléon III, c'est-à-dire magnifique, mais tellement de décors dedans, c'est même pas la peine d'y mettre une pomme de terre, on la voit pas.
Ah, on avait les mêmes au ministère
voilà,
de la Défense.
Donc c'est assez marrant. Après, il y avait un monsieur qui s'appelait Poliakov, qui est un grand peintre, designer de l'époque. Donc Pompidou avait fait rentrer cet homme à l'Élysée. C'est lui qui a fait le salon Pompidou, donc je vous dis pas les assiettes. On dirait du Mondrian, mais dans tous les sens, quoi, avec toutes les couleurs possibles, des géométries pas possibles. Et on servait dans les assiettes comme ça, c'est du délire. Aujourd'hui, on ne met même pas un steak là-dedans, parce que c'est inimaginable. Quoi. C'est du jaune, du vert, du rouge, du bleu, et ça part dans tous les sens. Donc ça, ce n'était pas le top. Au niveau du matos, ouais, on était équipés, mais je veux dire par là, comme tout le monde. Quoi. Non, ce que je veux dire, voilà, après on a de quoi... Voilà, c'est croustillant, il y a plein de trucs marrants. Et c'est vrai que ça tourne quand même assez autour de François Mitterrand. Et tu as bien joué d'ailleurs. Les questions.
Je suis étonné un peu, parce que c'est vrai que les questions tournent autour de François Mitterrand, alors que le livre parle aussi. C'est vrai, il y a toute la partie éducation et tout ça, que je trouve personnellement aussi intéressante. C'est vrai que François Mitterrand, chapeau, quoi. C'est une pop star, quoi.
Ah non, c'est clair. D'ailleurs, on m'a dit, c'était quand ? Ben, mon fameux poissonnier, ce matin. Ah, il me faisait rire. C'est, à la limite, c'était... Le livre, c'est uniquement pour ça. C'est marrant, mais c'est vrai, comme tu as raison, c'est qu'il y a une grosse partie de mon enfance qui amène un petit peu l'explication du pourquoi. Ensuite, il y a cette partie, bien sûr, élyséenne, incontestablement. Après, il y a l'oiseau bleu. Après, il y a la partie éducation nationale, un petit peu. Et puis la partie un petit peu showman, événementiel et compagnie. Et c'est vrai que, bon, le marketing, c'est la vie, c'est quand même François Mitterrand. La couverture, c'est pas un hasard non plus. Mais ce qui est certain, c'est que c'est justement là qu'il va falloir creuser, parce qu'il y a vraiment d'autres choses à lire. Notamment, moi, ce que j'aimerais que les gens comprennent le plus dans ce bouquin, c'est d'où j'arrive. Et pourquoi j'enseigne comme j'enseigne aujourd'hui, même si ce n'est pas du tout conventionnel. Bon, j'attends toujours que l'éducation nationale me rappelle à l'ordre ou qu'on... Non, j'ai reçu un petit félicitation comme ça d'un inspecteur, parce que c'était un ancien collègue de... C'était un ancien copain de BTS qui est devenu inspecteur. Un petit félicitation comme ça, ils savent pour où ils habitent. Bon, c'est pas très très grave, quoi. C'est pas très très grave. C'est pas non plus un programme pour l'éducation nationale. C'est juste qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on considère davantage nos jeunes en pensant... Eh bien, leur octroyer éventuellement une place dans la vie qui n'est pas facile, avec éventuellement un emploi, mais plus qu'un emploi. Moi, je leur dis tous les jours, j'ai cette chance de très bien gagner ma vie en prenant mon pied tous les jours. C'est-à-dire que je me lève tous les matins en ayant envie, je bosse comme un fou furieux, alors ça c'est clair, je suis un malade, ça me plaît, je gagne très bien ma vie et je prends mon pied. Donc, sur la journée, je dois avoir 5% de choses qui m'énervent. Donc, c'est plutôt agréable. Donc, je souhaite à beaucoup ça. Et je pense que ça peut, c'est incontestable. Quand je vois les gens autour de chez moi tailler la vigne, l'autre qui fait une vidange, machin, je me dis, bon, il y a des métiers qui sont plus ou moins marrants que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir celui-ci, mais en même temps, aujourd'hui, je suis plus heureux qu'un de mes meilleurs potes qui a fait une très belle photo dans le livre, là, d'ailleurs. C'est Ambroise Salin, qui est chirurgien-urologue. Il rigole pas tous les jours, lui. Parce que des fois, il va annoncer à des gens que c'est fini. Moi, je peux juste leur annoncer éventuellement que ça va être chaud ou peut-être un peu brûlé sur les bords. Mais bon, c'est pas... Il y a pire, quoi. Donc, on a beaucoup de chance. Voilà, c'est pour ça que ce livre, il transcrit un petit peu ça, l'envie, l'énergie. Et puis, voilà.